J'allais dire, comme Marcel Proust, pendant longtemps, je suis arrivé à l'heure. C'est... Bon, comme on commence la recherche du temps perdu. Bon, pendant longtemps, je suis arrivé à l'heure à l'émission de Radio Galère parce que je venais à pied. Et inopinément, j'ai dû faire un trajet en voiture. Et donc, les embarras de Marseille, comme on dit, ont fait que je n'ai pas pu être à l'heure. Je vous présente toutes mes excuses et on se retrouvera de toute façon à une autre occasion avec un plein temps. Et puis, merci encore à Roselyne, à qui j'ai prévenu au dernier moment, voilà, que je ne serai pas là à l'heure. Alors, je vais commencer par la chronique habituelle de tous ces deux derniers mois sur la réforme, soi-disant, des retraites. Bon, simplement pour m'arrêter à la dernière étape qui a été franchie, les deux dernières étapes, c'est-à-dire les décisions du Conseil constitutionnel et la promulgation à l'heure du laitier, j'allais dire comme des voleurs, par l'équipe de la présidence de la République à 4h du matin, promulguer une loi au journal officiel pour qu'elle soit à 8h ou à 7h sur le site du journal officiel. On n'avait jamais vu ça dans la République. Un signe de plus que la République, telle qu'elle existe aujourd'hui, qu'elle est cadrée par les constitutions de 58, retouchées 1962, retouchées 2018, cette République-là est morte. C'est-à-dire que la semaine dernière a marqué l'acte de décès de la Ve République. Pourquoi ? D'une part parce que cette Ve République est née d'un coup d'État. Et donc, quand on sort d'un coup d'État, on fait un texte qui, d'une certaine façon, légitimise le coup d'État. Il a eu lieu, mais enfin, on réorganise les pouvoirs, la République continue. Elle ne continue pas. Il y a eu une rupture, il y a eu, en mai-juin 1958, un coup d'État organisé en partie par les gaullistes, par l'armée, etc. Je ne reviens pas là-dessus. D'où il est sorti la Constitution dans laquelle nous vivons, avec les retouches qu'il y a pu avoir depuis, et qui a organisé un nouvel équilibre des pouvoirs, l'exécutif. Donc le gouvernement prenant le pas sur le législatif, c'est-à-dire affaiblissant l'Assemblée. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines a bien montré que l'Assemblée était affaiblie structurellement et que de toute façon, on ne voulait pas qu'elle pèse dans les choix. Ça s'est terminé par un texte assez hallucinant qui est la décision du Conseil constitutionnel qui dit, écoutez bien, au demeurant, eu égard à l'état d'avancement de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale à l'issue de ce délai, le fameux délai très très court imposé par la procédure, la prolongation des débats devant cette chambre n'aurait pas permis l'adoption de ce texte. C'est-à-dire que cette simple phrase résume que l'Assemblée est là uniquement pour adopter les textes et quand elle n'est pas dans les temps pour les adopter, eh ben c'est le gouvernement qui les adopte, on n'en parle plus. C'est une phrase absolument ahurissante qui est une phrase du Conseil constitutionnel. Bon. Alors, le Conseil constitutionnel est lui aussi le résultat de ce coup d'État de 1958. Ce n'est pas une Cour suprême, insistons bien là-dessus, puisque les 9 membres sont nommés par les présidents des chambres, Assemblée nationale et Sénat, et par le président de la République. Donc, il ne s'agit pas de juristes, de spécialistes du droit constitutionnel, il s'agit d'une chambre éminemment politique qui est destinée à rectifier certaines bavures quand il s'en passe dans les activités de la République. Alors par exemple, ça c'est une activité très courante du Conseil constitutionnel, annuler une élection de député. Bon, il y a eu des tricheries, il y a eu des choses, on refait. Bon, là, personne ne se fâche, peut-être à part le député qui est recalé, mais c'est tout. Donc, bon, c'est anodin. Là, il s'agissait bien d'un cas extrêmement grave où l'exécutif avait piétiné le législatif, l'exécutif avait utilisé abusivement toute une série de dispositions de la Constitution sur, donc, je ne reviens pas, le 47.1, le 44, etc. Donc, le gouvernement s'était assis sur tous les textes de la République. Quand en plus le Conseil constitutionnel confirme que, de toute façon, l'Assemblée, on n'en attendait rien, puisque cette chambre, aujourd'hui, cette chambre n'aurait pas permis l'adoption de ce texte. Elle était là que pour ça. Vous adoptez, ou vous restez, ou vous rentrez à la maison. Et nous publions dans la nuit, tout de suite, au journal officiel. C'est ça la République. Donc, la Ve République, qui est résultat d'un coup d'État, j'insiste, est morte la semaine dernière. Alors, bien sûr, on va nous dire que bon, pour l'instant, il n'y a pas effectivement d'insurrection de masse, le peuple n'est pas en armes dans la rue, je ne sais pas. De toute façon, le cadre institutionnel dans lequel la République a fonctionné depuis 1968 s'est écroulé sous nos yeux. Et il ne s'est pas écroulé tout seul, puisque c'est l'équipe à Macron qui l'a fait écrouler en piétinant les textes. Bon, ceci étant parfaitement classé, on y reviendra peut-être à une autre séance, puisqu'il y aura quand même un autre événement qui suivra, c'est qu'il est encore possible que, à la suite d'une deuxième tentative pour organiser un référendum d'initiative partagée, dont j'ai à cette antenne souligné les limites, mais il se peut que, donc c'est prévu je crois pour le 4 mai, le Conseil constitutionnel accepte, mais c'est pas sûr, accepte qu'il y ait un référendum d'initiative partagée qui remette en question les fondements de cette loi. On y revient. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, simplement, si, parce que quand on met un clou dans un cercueil, il faut que ça fasse du bruit. Le coup de marteau, je le donne, la Ve République est morte la semaine dernière. Et les textes qui l'a fondée ne sont plus d'actualité. Bien. Mais je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Et je vais vous parler de l'événement qui, à mon sens, a été le plus événement, pas la semaine écoulée, puisqu'on a consacré l'émission à une historienne que vous avez tous certainement entendue, mais à des événements de la semaine précédente relatifs à la visite du président de la République française à la République populaire, dans la République populaire de Chine. Alors là, on est dans une chose beaucoup, beaucoup plus intéressante sur laquelle je vais m'attarder. Parce que quand un chef d'État de la taille de la République populaire de Chine reçoit un autre chef d'État, on n'est pas à jouer à des petites phrases. Une visite officielle qui a duré 3 jours, on n'est pas à dire « il a dit ceci, il a dit cela, il a pensé que, il a fait observer que ça ». Non, ça c'est du macronisme communicationnel. C'est pas comme ça que ça se passe quand on a affaire à deux États sérieux et organisés. Alors, je mets sérieux au même niveau pour les deux républiques, on verra par la suite de ce que je vais dire que le sérieux est plutôt d'un côté. Et donc, toute cette visite officielle, qui était la première visite d'État, une visite d'État, ça a le caractère de le lustre maximum, l'officialité maximum d'un chef d'État qui en reçoit un autre. Parce qu'effectivement, il est arrivé, par exemple, ça s'est fait dans les mois de la fin de 2022, le chancelier allemand, M. Scholz, a demandé à rencontrer le président de la République chinoise, et l'autre lui a dit « venez ». Et donc M. Scholz a passé une journée entre deux avions à Pékin. Il a parlé d'un certain nombre d'affaires, il parlait surtout économie. Et puis il y a eu un certain nombre de conférences vidéotées entre ses ministres et les ministres chinois. Ce n'était pas une visite d'État, c'était une réponse polie et diplomatique de la République populaire chinoise et de son président à une demande d'un chef de gouvernement, puisque vous savez qu'il y a un président en Allemagne, mais que le pouvoir est entre les mains du chancelier. Donc, je souligne bien, et ça a été souligné par la partie chinoise, c'était la première grande visite d'État, d'un État, donc à Pékin, après le 20e congrès du Parti communiste chinois, c'est-à-dire après que le Parti communiste chinois ait confirmé à l'ensemble de ses postes, M. Xi Jinping, il a 3 postes importants, il faut le savoir. Il est d'abord, et c'est le plus important, et c'est sur lequel on n'insiste pas assez, il est secrétaire général du Parti communiste chinois. C'est ça son poste le plus important. Et c'est de ça que traite le 20e congrès. Secrétaire général du Parti communiste chinois, ça veut dire que c'est le parti qui est organisé puissamment dans le pays, qui compte 100 millions de membres adhérents et militants, et qui oriente la politique chinoise sur 10, 20, 30 ans, qui voit l'avenir. Il est aussi président de la commission militaire centrale. C'est-à-dire, de fait, il est président, il est le chef des armées, mais pas au sens où nous l'entendons, nous, dans nos pays occidentaux. Le président de la commission militaire centrale, ce n'est pas un militaire. Mais ça veut dire que pour la Chine populaire, l'armée est un instrument politique et que l'armée doit obéir à certaines règles politiques. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les unités de l'armée populaire chinoise ce qu'on appelle des commissaires politiques. C'est-à-dire qu'ils vont dire « ça, on ne peut pas le faire, ça, on ne le fait pas, ça, on le fait, ça, on ne le fait pas ». Donc il y a des objectifs militaires, mais il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas au nom d'une espèce de morale politique et d'objectifs politiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider, par exemple, de gazer les Juifs. Le commissaire politique dira non. Bon, je prends un exemple, il ne s'est jamais posé chez les Chinois, mais ça s'est posé dans des armées occidentales. Bon, ben ça, ce n'est pas possible, parce qu'il y a dans chaque unité de l'armée un commissaire politique. Ça se sent et ça a été vécu par un certain nombre de pays où la Chine a envoyé des casques bleus. Vous savez que la Chine contribue beaucoup aux forces de l'ONU, et donc après, le pays qui reçoit ces forces, les casques bleus, fait un commentaire sur la façon de se comporter des soldats de telle ou telle armée. Alors vous savez qu'il y a souvent, enfin il y en a beaucoup qui participent, mais la Chine participe très régulièrement et la Chine a les meilleures notes de tous les casques bleus possibles, c'est-à-dire que la correction dans les rapports, le respect de la population locale, le respect des consignes, tout ça fait partie de la façon dont l'armée populaire se comporte. Ça fait partie de ça. Et puis le troisième titre, celui auquel on s'attache, il est président. Voilà, il y a le président Xi Jinping. Voilà. Bon. Donc ces trois titres-là, il faut bien les situer à leur taille. Et donc quand il y a une visite d'État, c'est ce monsieur qui a l'ensemble de ces pouvoirs-là, c'est-à-dire des pouvoirs immédiats de gouvernement, président, des pouvoirs sur l'avenir, le Parti communiste chinois, qui accueille un hôte et il accueille pour essayer de clarifier ou mettre sur pied ou améliorer les relations avec ce pays hôte. Le résultat, ce n'est pas du tout un discours où on dit on est copains, on se tape sur le ventre, etc., on boit un coup. Ce n'est pas du tout ça. C'est une déclaration d'une huitaine de pages comportant 80 articles où il est dit que la République française et la République populaire de Chine se sont rencontrées à travers leurs deux chefs et ont signé une déclaration commune. C'est-à-dire qu'il y a ce texte dans son ensemble qui est signé par les deux présidents. Alors ça, c'est tout à fait autre chose qu'un petit discours ou un commentaire à la radio qu'on vous fait comme ça. La déclaration en question, d'ailleurs, elle est tellement officielle que vous pouvez la lire sur le site de l'Élysée. Elle a été publiée le 7 avril et donc elle s'appelle « Déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine ». Alors vous imaginez, alors réfléchissez un petit peu, pour signer ce papier donc de 80 et quelques articles où il y a tous les aspects possibles et imaginables des relations entre deux pays, ça ne s'est pas fait au coin d'une table entre deux toasts portés à l'un et à l'autre. C'est un document qui a été préparé à l'avance, qui a été négocié entre les deux parties et dont la signature est intervenue de cette façon assez solennelle en disant « les deux présidents ont signé la déclaration commune ». Mais le texte était tout prêt. Il était même prêt avant que Macron pose le sol sur l'aéroport de Pékin puisqu'il avait donné lieu à des contacts préalables. J'en cite un qui est tout à fait important. C'est au mois de février que le nouveau membre du ce qu'on appelle le plénum, donc le bureau politique du comité central, c'est-à-dire l'équipe de 7 personnes qui gouvernent la Chine autour du président Xi Jinping. Il y a dedans un monsieur qui s'appelle monsieur Wang Yi, qui a été jusqu'à l'année dernière ministre des Affaires étrangères et qui est maintenant le responsable de toute la politique internationale de la Chine. Voilà. Bon. Ce monsieur s'était fendu d'un voyage au mois de février à Paris, où il était allé rencontrer Madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Et au menu de leur rencontre, il y avait évidemment la préparation de la rencontre des deux présidents et du contenu de ce qu'on allait mettre dans la déclaration commune. Ça s'est fabriqué petit à petit. Alors on le voyait venir quand on suivait ça d'un peu plus près. Mais tout le monde a fait comme si M. Macron allait pour dire il faut que la Chine arrête de soutenir la Russie. Il a fait sa comédie habituelle. En fait, le fond du problème était dans ce document. Et qu'est-ce que c'est ce fond du problème ? Ce fond du problème, alors, c'est toute une série d'engagements de l'un et de l'autre sur tous les aspects possibles et imaginables des relations. On peut, par exemple, discuter et signer le fait qu'on va développer en Chine l'enseignement du français et on va développer en France l'enseignement du chinois avec les écoles, les instituts Confucius. Bon, on peut imaginer toute une série d'autres choses. Alors, vous pouvez lire cette déclaration qui est donc longue, mais qui est sur le site de l'Élysée, qui a été publiée simultanément sur le site de l'agence de presse, l'agence du peuple en Chine, en version française. Il n'y a pas de problème. Mais je vais m'arrêter sur la construction interne de ce long document. Parce que ce n'est pas simplement une addition de paragraphes sans lien les uns avec les autres. Au contraire, tout a une cohérence. La cohérence, elle est dans le fait que dans la première partie du texte, qui s'appelle « Renforcer le dialogue politique et promouvoir la confiance politique mutuelle », et la deuxième, qui s'appelle « Promouvoir ensemble la sécurité et la stabilité dans le monde », eh bien, il y a là des éléments tout à fait nouveaux qui étaient assez inattendus de la part de M. Emmanuel Macron, mais qui, du côté de la Chine, n'étaient pas du tout inattendus. Bon. Renforcer le dialogue politique et promouvoir la confiance mutuelle, ça veut dire que la France et la Chine soulignent l'importance des échanges de haut niveau, de leur dialogue stratégique, de leur dialogue économique et financier et de leur dialogue de haut niveau sur les échanges humains pour favoriser le développement de leur coopération bilatérale et conviennent de tenir une nouvelle session des 10 dialogues avant la fin de l'année. Donc on se reverra. Ensuite, et c'est là que ça devient très très intéressant, La France et la Chine s'accordent à approfondir les échanges sur les questions stratégiques et notamment à approfondir le dialogue entre le théâtre sud de l'armée populaire de libération de la Chine et le commandant des forces françaises en zone Asie-Pacifique, qui s'appelle Al Paci, hein, l'amiral commandant le Pacifique pour la France, afin de renforcer la compréhension mutuelle des enjeux de sécurité régionaux et internationaux. Alors je m'arrête parce que c'est dans une forme très ramassée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que M. Macron et le président chinois ont entériné le fait que, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le fameux accord sur les sous-marins nucléaires passés avec l'Australie était une magistrale claque donnée à la France, à sa diplomatie, à ses constructions militaires, etc., puisque les États-Unis se sont mis d'accord avec la Grande-Bretagne et l'Australie pour dire « les sous-marins français, on n'en veut pas, on raye la commande, tant pis pour vous, hein, et on prend l'affaire en main ». C'était une façon, et je pense qu'à l'Élysée, ça a été ressenti pour ce que c'était, une claque. Ça faisait suite à une autre claque du même acabit qui avait été administrée cette fois à un certain François Hollande, qui était le fait qu'à un moment donné, les États-Unis avaient intimé l'ordre à la République française, je dis bien avaient intimé l'ordre à la République française de ne pas livrer à la Russie deux navires, deux porte-hélicoptères qui étaient en cours de construction à Saint-Nazaire. Ça, c'était une deuxième claque magistrale. Là, les États-Unis se permettaient de dire à la France « c'est nous qui décidons de ce que vous faites de votre industrie de l'armement ». Bon. Alors, je ne rentre pas là, ça s'est arrangé d'une curieuse façon après, mais ça a été un signe qui ne trompait pas. Et puis, la deuxième claque, donc celle qui a été subie par Emmanuel Macron, c'était désormais les questions stratégiques dans le Pacifique. Ça se joue entre la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis, et en soulignant bien le fait que l'Australie n'est jamais que l'agent des deux précédents, c'est-à-dire l'Australie obéit à ce qu'on lui a dit de faire. Mais de toute façon, c'était une exclusion de la France. Quel est le résultat ? C'est ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire qu'il est convenu par les deux parties que la France, en fait, joue du côté chinois dans les conflits ou dans la tension géostratégique ou géopolitique en Pacifique. Pourquoi elle le joue ? Non pas parce que Emmanuel Macron a décidé de se jeter dans les bras des Chinois. C'est bien plus bête que ça. C'est les États-Unis qui ont jeté Emmanuel Macron dans les bras des Chinois. Et les Chinois se sont ouverts. Mais venez avec nous. Alors ils savent bien que ça pèse pas très très lourd parce que c'est pas les deux frégates ou même pas c'est des petits bateaux qui sont basés à Nouméa, l'un l'autre à Tahiti, qui vont changer l'équilibre des forces militaires dans le Pacifique. La Chine a mieux à faire. Elle a déjà deux porte-avions. Elle est en train de construire le troisième. Elle a plus de sous-marins que tous les autres pays du monde contenu, etc. Mais le fait que ce soit signalé que les forces militaires de la France autour de ses colonies, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, subsidiairement la Réunion, soit à la disposition, enfin rentre dans le cadre de la politique chinoise dans les rapports entre la Chine et les anglo-saxons, pour faire simple, c'est un tournant non négligeable, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu. Et quand M. Macron partait en disant « je vais dire au président chinois qu'il faut dire à la Russie d'arrêter », il l'a peut-être dit, mais de toute façon, ça n'était pas dans le débat. Le débat, il était là, c'est-à-dire que la France est tombée du côté chinois dans la politique dans le Pacifique. Elle n'y est pas tombée de bon gré, c'est-à-dire, je dis, c'est la suite de la paire de claques. Et le petit tout à l'Élysée, il a dit « Ah, mais on donne des claques, oh, ben, c'est pas bien ». Et la Chine, très évidemment, lui a dit « Écoutez, ils vous traitent mal, mais nous, on vous traitera gentiment, on vous respecte, vous êtes là dans le Pacifique, vous y êtes, on reconnaît, quoi qu'on puisse penser de vos colonies, mais vous êtes là et vous avez partagé avec nous un certain nombre de positions ». La deuxième position extrêmement importante, c'est un autre article de cette déclaration commune, c'est que la France reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine. Alors là aussi, ouïaïaï, au moment où les démocrates états-uniens se déchaînent et tout, disent « vous allez voir, c'est pas possible, on va à la guerre, etc. », la France, M. Emmanuel Macron, président de la République française, a dit effectivement « je reconnais la politique d'une seule Chine ». Comme les États-Unis l'avaient fait d'ailleurs dans les années 70, mais ils ont tendance à oublier parce que c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est rien, mais c'est immense. C'est immense. Et c'est pas M. Macron qui a dit « je veux absolument signer ça ». c'est les autres qui lui ont dit, mais reconnaissez l'évidence. Hein. Et la position que tenaient les États-Unis en 1975, bon, elle était raisonnable. Maintenant, ils sont sur un chemin de 20 marches en guerre. Et Macron a dit, ben oui, effectivement, c'est pas la peine. Et c'est ce qui a été à l'origine, parce que ça, c'est la signature de la déclaration. Et puis, vous souvenez que quand il est revenu donc de Chine dans l'avion et à la descente d'avion, il a dit, en substance, je ne pense pas qu'il soit utile que l'Europe se mêle de ça. Les Chinois n'attendaient rien d'autre. Et en fait, en signant cette déclaration, la Chine a obligé Macron à introduire un coin qui est de nature à faire exploser la diplomatie européenne. Parce qu'entre ceux qui disent non, il y en a qui vont répéter à l'envi, comme dit Biden, comme disent tous les officiels américains, il y aura la guerre si la Chine touche à Taïwan. L'Europe peut dire, au moins Macron l'a dit, et c'est ce qui a fait hurler certains, au moins Macron dit, bon, est-ce que c'est bien dans notre intérêt de participer à cette guerre? En plus, objectivement, militairement, ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a deux bateaux basés à Nouméa que ça va changer quoi que ce soit. Même s'il y a un de nos quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui se baladaient le long des côtes chinoises et qui commettent la folie de tirer un missile sur le territoire chinois, ça ne se fera même pas. Ça ne se fera même pas parce que l'un et l'autre, les deux États signataires de la déclaration commune, ont bien souligné que le 3 janvier 2022, ils avaient tous les deux, en compagnie de M. Joe Biden, en compagnie de M. Boris Johnson et en compagnie de M. Vladimir Poutine, signé une déclaration commune des 5 membres du Conseil de sécurité qui détiennent tous la bombe atomique, disant que la guerre nucléaire était impossible parce que tout le monde mourrait. C'est une position que Poutine tient depuis 10 ans. Ça ne sert à rien, on se tue. Et puis après quoi? Il n'y a pas de bénéfice politique. Bon, et ça a été rappelé. Alors, ça ne fait pas partie du discours habituel des macroniens et des va-t-en-guerre qui sont dans la presse, les médias, etc. Mais c'est la réalité. Et comme Macron l'a signé en janvier 2022, et là aussi, ce n'est pas un chef d'État qui se lève le matin et dit « Ah là, je vais faire plaisir à Xi Jinping ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des préparatifs, il y a des réflexions, on échange des données entre militaires, stratèges, etc. Et on reconnaît finalement que la guerre nucléaire est impossible. Elle est impossible, et on ajoute ce qu'ils ont fait dans la déclaration commune, que les 5 en question qui ont l'arme atomique ont signé aussi un traité de non-prolifération, et ils font tout ce qu'ils peuvent, ils n'y arrivent pas toujours, il y a eu des bavures, on le sait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que l'arme atomique ne se répande pas sur la totalité de la planète. Parce que ce qu'ils disent, entre nous, on se tuerait les uns les autres, et si d'autres États se mettaient à l'utiliser, ils seraient aussi condamnés à la destruction. Alors on pense aux quelques tricheurs qui sont passés à travers le filtre du traité de non-prolifération. Ils sont connus, Israël le premier, l'Inde et le Pakistan en second, et probablement la Corée du Nord en quatrième. C'est tout. Mais autrement, le filtre a fonctionné. Personne d'autre s'est lancé dans l'armement nucléaire. Et même s'il est à la mode de dire que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire, l'Iran a très très bien compris que lui aussi, ça ne l'intéressait pas de mourir à la guerre nucléaire avec Israël, et donc a toujours affirmé, et personne n'a pu démontrer le contraire, qu'il ne voulait pas l'arme nucléaire. Voilà les données de base de la politique. En plus, il s'est ajouté à ça une déclaration disant que la France allait s'intéresser à la route de la soie. C'est dans la déclaration commune. Ça veut dire quoi, s'intéresser à la route de la soie? Ça veut dire rentrer exactement dans la politique chinoise qui consiste à dire « Nous ne regardons pas si votre régime est de droite, de gauche, du centre, etc. Nous regardons si nous avons des intérêts économiques communs et comment les développer. » Et donc, pour avoir des intérêts économiques communs, il faut pouvoir commercer et donc pouvoir échanger et pouvoir faire circuler de la marchandise de chez l'un vers l'autre. Alors ça se fait depuis longtemps par la voie maritime et par le canal de Suez. Et puis ce qu'ont ajouté les nouvelles routes de la soie, c'est la circulation par voie terrestre. Et il faut savoir, il faut le souligner parce que ça reste un élément de vérité, qu'il y a tous les jours, partant de différentes grosses villes de Chine, des trains de containers avec 100, 150 containers qui amènent de la marchandise. Alors vous direz, ah mais oui, c'est en Allemagne. Non, c'est pas en Allemagne. Il y a un train qui arrive à Lyon, il y a un train qui arrive à Lisbonne. Lisbonne, il y a un train qui arrive à Bruxelles, etc. Bon, donc les relations fonctionnent. Et donc quand la France dit qu'elle va s'associer, alors elle n'a pas signé encore pour adhérer aux routes de la soie, mais elle dit qu'elle considère que ça existe et que ça fait partie des relations entre la Chine et la France. Pourquoi ça intéresse Macron ? Ça, on est dans la partie économie. Ça intéresse Macron parce qu'il s'est rendu compte, et au fond, il l'officialise en signant cette déclaration, que les sanctions américaines, les sanctions dictées par les États-Unis contre la Russie, profitent d'abord aux États-Unis, puisqu'ils vendent leur gaz à la place du gaz russe, par exemple, mais ne profitent pas du tout aux économies européennes, qui ont des difficultés, donc qui perdent des clients côté russe, et qui ont des difficultés et des hausses de prix. Tout le monde sait ça, la hausse de l'inflation et tout. Donc, honnêtement, un gouvernement européen aujourd'hui qui regarde les conséquences des sanctions américaines contre la Russie voit que les Européens sont perdants. Et ça se trouve, je ne l'invente pas, ça se trouve dans un certain nombre d'articles de presse qui analysent objectivement les résultats. Et face à une économie chinoise qui est bien repartie, qui va vite et qui tire entre toute l'économie mondiale, les économies européennes sont en stagnation ou à peine en croissance face à des hausses des prix, face à des difficultés de répartition de leur commerce international. Tout ça. Alors tout ça, Macron le sait. Mais au lieu de dire « tout va bien, je vais aller dire qu'il ne faut pas travailler avec la Russie, que l'Ukraine, c'est pas bien et tout », il a commencé à faire ses comptes. Et les Chinois, tellement gentils, j'allais dire, je le dis avec un sourire, l'ont aidé à faire ses comptes. Il lui a dit « allez, qu'est-ce que... » Parce que dans la logique de la route de la soie et des relations, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, la Chine n'essaye pas de vendre à quelqu'un, elle essaye aussi de lui acheter. Alors quelquefois c'est déséquilibré, c'est le cas d'ailleurs du commerce entre l'Europe, l'Union européenne et la Chine. Il y a des gros courants d'échange dans les deux sens, mais globalement les Chinois exportent plus qu'ils n'importent. Mais ils essayent quand même d'importer pour montrer qu'ils ne veulent pas faire mourir de faim leurs clients. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'illustre ça par le cas des Airbus. Alors il faut savoir que la Chine dispose aujourd'hui, j'insiste là-dessus, la Chine a construit des Airbus sur une chaîne de montage qui est à Tianjin, là, la grande ville au sud de Pékin, depuis une bonne dizaine d'années. Et donc les Chinois maintenant, dans cet atelier commun Airbus, mais avec des ouvriers, des contremaîtres et des ingénieurs chinois, les Chinois, ils savent faire des avions. À telle enseigne que depuis la fin de 2022, ils ont, eux, un moyen courrier qu'ils ont fabriqué tout seuls, qui a commencé à être mis en exploitation. Donc ils n'ont rien à apprendre aujourd'hui des techniques d'Airbus. Mais en achetant des Airbus et en disant on va le faire en plus en construisant une deuxième chaîne de montage à Tianjin, ils montrent qu'ils sont ouverts et qu'ils veulent permettre à l'Europe, à la France et à l'Allemagne en particulier, qui sont les deux actionnaires principaux d'Airbus, de vendre un peu leur matériel. Et puis, petit clin d'œil au passage, regardez bien, si on achète des Airbus, ça veut dire qu'on n'achète pas des Boeing, parce que c'est les deux concurrents sur le marché mondial. Donc, nous, les États-Unis sont fâchés avec nous, on n'achète plus de Boeing. Par contre, si les Européens veulent être bien polis avec nous, on peut travailler ensemble et on peut les aider à sortir leur économie de leur marasme ou du marasme qui s'annonce. D'où l'annonce des Airbus. Même chose sur un style un peu différent pour des achats d'hélicoptères qui vont être utilisés pour des gros chantiers sur le continent chinois. Et puis, je reste sur cette question de l'aviation. Bien entendu, les Chinois en affaires ne sont pas des benêts. C'est-à-dire qu'ils disent à Airbus, on va vous acheter des tas d'appareils. C'est de l'ordre de 150, ce n'est pas deux ou trois avions, c'est beaucoup, beaucoup d'avions. Mais le paragraphe suivant est une précision sur la façon dont se noue le contrat, c'est-à-dire qu'il faudra que la France revoie les droits d'usage des compagnies aériennes chinoises. Vous savez qu'une compagnie, quelle qu'elle soit, Air France ou KLM, ne peut pas ouvrir une liaison internationale sans l'accord du pays qui reçoit l'avion. Bon. Et donc, jusqu'à présent, les accords, les ouvertures de trafic des compagnies chinoises, et il y en a de très, très, très grosses maintenant, ne concernaient pas la France. Bon, donc, au passage, on s'aperçoit que la Chine dit « Allez, je vous prends 50 Airbus, mais maintenant, mes compagnies chinoises vont avoir des vols directs sur Paris ou sur Marseille chaque fois que j'en aurai besoin. » Et là, vous voyez, on est dans la négociation, dans le gagnant-gagnant, dans l'économie. L'ensemble du document que je vous invite à lire, parce que là, on sort des commentaires journalistiques trop faciles. L'ensemble du document est de cette même eau. Alors, il y a une reconnaissance, par exemple, des capacités techniques et scientifiques et des ingénieurs français dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine de l'énergie nucléaire, dans toute une série de domaines qui sont reconnus. Et donc, il va y avoir des échanges de techniciens, de savoirs, etc. Donc, les relations sont établies au meilleur niveau. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'économie générale de ce document, c'est qu'à partir du moment où la France a signé qu'elle reconnaissait les options stratégiques de la Chine sur la question de Taïwan en particulier, sur la guerre dans le Pacifique qui ne devrait pas avoir lieu, sur l'arme nucléaire, après, tous les problèmes deviennent très faciles à résoudre. Mais ce qui est important, et c'est ce qui a fait hurler les atlantistes à Paris, à Washington, à Berlin, etc., c'est que, en fait, la France a basculé dans le cadre d'une politique où elle n'est plus du tout porte-parole de la politique guerrière de sanctions des États-Unis. Alors évidemment, ça pose problème. Ça veut pas dire... Alors pourquoi la France l'a fait ? La France n'a rien fait. Pourquoi la Chine l'a fait ? Parce qu'elle a senti effectivement que la position française, qui est décisive, la France est le seul membre de l'Union européenne qui a l'arme atomique, qui est au Conseil de sécurité, qui est membre permanent. Donc faire basculer la France, c'était introduire un motif de débat qui est en train de s'envenimer sur le continent européen et dans l'Union européenne, entre tous les membres de l'Union européenne, les uns disant « Ah ben finalement la France a raison parce qu'on peut travailler avec la Chine alors que si on suit la politique des États-Unis, on se suicide nous-mêmes ». Et les autres n'arrivant pas à affronter l'oncle Sam pour lui dire « Écoute, tu nous obliges à faire une politique qui ne correspond pas à nos intérêts ». Disant ça, je ne grandis pas du tout Macron. Je dis qu'au fond, la Chine l'a trouvé dans une position de faiblesse telle qu'il était obligé d'en passer par ces conditions. Et désormais, effectivement, l'espèce d'onde de choc du basculement macronien dans l'Union européenne va se propager dans tous les débats européens et dans toutes les capitales. À telle enseigne que maintenant, il y a foule. Tout le monde veut aller à Pékin. Maintenant, on aura Madame Meloni qui va y aller. Alors là, c'est trop drôle. La ministre des Affaires étrangères allemande, qui est une va-t-en-guerre, une pousse au crime, c'est une verte, donc qui voudrait tuer tous les Russes qu'elle peut rencontrer dans la rue, est allée à Pékin récemment, la semaine dernière. Elle a rencontré donc le ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères lui a dit, vous savez, madame, quand vous avez voulu réunir les deux Allemagnes, la Chine a dit qu'elle était d'accord. Donc nous, on veut rassembler deux morceaux de la Chine. Alors laissez-nous faire, soyez tranquille. On sait faire, on sait rassembler. Hein. Mais pourquoi chercher une guerre qui est inutile et qui ne mènera à rien, si ce n'est à peut-être une défaite. Bon. Donc tout ça va se propager petit à petit sur les ondes et sur les diplomaties de la planète. Donc j'insiste bien, ce n'est pas une victoire de Macron, c'est une victoire chinoise sur fond de faiblesse structurelle de Macron et de l'économie française, qui est en mauvais état. C'est tout à fait clair. Super endettement, production stagnante, inflation, etc. Tout ça fait partie du cadre dans lequel nous vivons. Et donc la Chine a dit, ben, c'est le moment où je vais ramener ce petit pays à la raison d'État, c'est-à-dire être raisonnable et pas suivre les exhortations et les consignes d'un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui ne s'occupe que de ses intérêts à elle. Alors quand Macron dit les intérêts des Européens, c'est pas de faire la guerre à Taïwan, il parle de bon sens. Ça ne le rend pas pour ça, j'insiste là-dessus, parce que les auditeurs pourraient se méprendre, ça ne le rend pas pour ça plus sympathique. Il est faible, il a signé sa faiblesse, et il a trouvé en face de lui quelqu'un qui, reconnaissant sa faiblesse, ne lui en veut pas trop, puisque au fond, elle l'aligne dans son camp, et elle essaye de lui apporter un certain nombre de compensations économiques, financières, culturelles, tout ce qui est possible de faire entre deux États. C'est très très intéressant de lui. Mais, ceci étant dit, la question du nucléaire qui est centrale, hein, la Chine a beaucoup souligné que la France est la troisième puissance nucléaire mondiale, ce qui est vrai, c'est-à-dire que la France aujourd'hui a plus de bombes atomiques que la Chine, plus de bombes atomiques que le Royaume-Uni, D'accord. Et par contre, elle en a beaucoup moins. Alors, elle est hors, les deux autres sont hors concours. Donc, la Russie et les États-Unis en ont de l'ordre de 10 fois plus. On est entre 2000 et 3000 chacun. Bon, ça, donc, on ne joue pas dans la même catégorie, en fait. Mais c'est important de le souligner. Mais ce qui se passe, c'est que la reconnaissance par les cinq du fait qu'il est impossible de mener une guerre nucléaire nous ouvre sur un chapitre que je vais ouvrir aujourd'hui et qui est de la plus grande importance. Il faut savoir que depuis l'année dernière, le Parlement russe a mis en œuvre, on met en place une commission qui s'occupe des développements de la guerre biologique et bactériologique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que, et je pense qu'il s'en doutait un petit peu, quand l'armée russe a mis les pieds sur le sol ukrainien, elle a sélectionné un certain nombre d'endroits où elle est allée faire ses courses ou alors ramasser un certain nombre de documents. Et depuis ce moment-là, il fonctionne au sein du Parlement russe une commission qui analyse tous les matériaux qui ont été rapportés par les soldats de l'armée russe qui sont allés mettre le nez dans les laboratoires clandestins de biologie, de guerre biologique qui avaient été installés par les États-Unis sur le territoire de l'Ukraine. Mais ce n'est pas un ou deux, c'est de l'ordre de la cinquantaine de laboratoires. Alors, est-ce qu'ils faisaient tous la même chose ? C'est probablement, l'astuce est là, c'est que chacun faisait un petit bout. Donc, il y avait du personnel ukrainien, il n'y avait pas des ingénieurs et des techniciens des États-Unis pour ça. Il y avait quelques superviseurs. Donc, les Ukrainiens qui trempaient là-dedans ne savaient pas le tout de la chose. Ils faisaient un petit morceau, puis l'autre morceau était fabriqué dans un autre labo et tout. Mais quand le Parlement russe additionne tout ça, il dit en fait, il y a un potentiel de guerre biologique énorme, énorme. Et ceci malgré un traité qui existe, qui a été signé, mais qui a de grosses faiblesses sur les armes biologiques qui sont en principe interdites. Ceux qui sont en train d'administrer, ils viennent de sortir, le Parlement de Russie vient de sortir son rapport à ce sujet. Ce qui démontre, c'est qu'en fait, les États-Unis, depuis, alors ça a commencé non pas après Maïdan en 2014, mais dès la révolution orange en 2004, où il est arrivé à la tête de l'Ukraine un monsieur qui s'appelle Yushchenko, qui était un agent des États-Unis et sa femme aussi. Et c'est à ce moment-là que cette opération de guerre biologique et bactériologique a commencé. Et quand les Russes sont arrivés donc, au printemps, en 2022 sur le territoire ukrainien, ils avaient sûrement des idées, ils sont allés chercher la documentation. Et maintenant, ils l'ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui d'une part ont signé avec Biden la déclaration de janvier 2022 en disant que la guerre nucléaire est impossible, deuxièmement, la guerre biologique, vous la préparez, mais on sait exactement ce que vous étiez en train de préparer et on ne va pas vous laisser faire. Donc, on est rentré dans une période très intéressante où, effectivement, l'alliance de la Russie et de la Chine, puisque la Chine aussi a demandé des explications sur ces laboratoires biologiques, ils savent que les Russes ont les informations, maintenant les documents, hein. La Chine a demandé la même chose et on a effectivement... Alors, il ne faut pas fantasmer sur la Chine et la Russie qui veulent nous envahir, ce n'est pas ça. Hein. Derrière ça, il y a une position qui est très très claire sur laquelle j'insiste et sur laquelle je n'arrêterai jamais d'insister. La Russie et la Chine font tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas une guerre générale. Et ils savent très bien que cette guerre générale ne pourrait être fomentée que par les États-Unis, que les États-Unis sont coincés au niveau du nucléaire, que les États-Unis sont coincés dans l'armée classique parce qu'effectivement, tout l'argent qu'ils mettent en Ukraine ne sert pas à grand-chose. Le dernier reportage de Seymour Hersh, le fameux journaliste qui a parlé du gazoduc, est très très amusant. Monsieur Zelensky a piqué 400 millions de dollars sur les crédits qu'il a reçus pour acheter du carburant. Bon, donc on a affaire au régime le plus corrompu qui existe. La conclusion est vite tirée. L'important, c'est ça, c'est-à-dire que les affaires du monde sont désormais prises en main par ces deux pays et ceux qui s'y rallient. Je pense en particulier aux BRICS, j'allais finir là-dessus, puisque vous savez que le nouveau président brésilien est venu à Pékin, qu'il a signé toute une série d'accords et qu'il a dit qu'il fallait se débarrasser du dollar comme monnaie d'échange internationale. Donc on est là aussi dans la reconfiguration générale du monde, militaire, diplomatique et économique. On y reviendra évidemment à de nombreuses occasions, autant que nécessaire. Merci Roselyne et à la semaine prochaine.